Désolé pour ceux qui ont déjà entendu. Oui, j'avais fait remarquer que j'ai inversé le titre qui parlait des enjeux éthiques et spirituels de l'euthanasie en enjeux spirituels et éthiques, parce que ce sont les questions d'état d'esprit qui changent le rapport à l'euthanasie, qui induisent les prises de position éthiques. Et je remarque le changement énorme de mentalité si on compare la mentalité au Moyen-Âge et celle d'aujourd'hui. Au Moyen-Âge, la grande crainte, c'est celle de la mort rapide. Aujourd'hui, le grand souhait, c'est celui de la mort rapide. Alors pourquoi grande crainte au Moyen-Âge? Parce que, eh bien, la mort sans préparation, c'est la mort sans sacrement, donc sans ce visa pour l'au-delà. Aujourd'hui, quel est le garant de la bonne mort? Eh bien, c'est le médecin. Au Moyen-Âge, c'était le prêtre. Alors, avec la réforme protestante au XVIe siècle, on observe un changement. Le seul garant de la bonne mort, c'est la foi personnelle au Christ. Et il y a une très belle formule dans le catéchisme de Heidelberg, catéchisme du XVIe siècle. Quelle est mon unique assurance dans la vie comme dans la mort? Eh bien, c'est que dans la vie comme dans la mort, j'appartiens corps et âme, non pas à moi-même, mais à Jésus-Christ. Donc, nous voyons qu'il y a vraiment un problème spirituel, une peur de souffrir, avant même la question de la souffrance réelle. Quand on étudie les sondages et qu'on les compare avec les demandes réelles d'euthanasie, il y a un contraste impressionnant, puisqu'il y a des sondages qui vont jusqu'à 94% des sondés qui sont favorables à une euthanasie active. Et en réalité, dans les services, on observe environ, dans les services où les personnes sont en fin de vie, que seulement 3% des malades demandent l'euthanasie. Donc il y a un ratio, un contraste qui est impressionnant. Alors, il y a une étude très intéressante du professeur Ferrand qui a été publiée en 2011 auprès de services de soins palliatifs où la douleur est prise en charge. Et ce qui est très, très impressionnant, c'est que la motivation de la demande d'euthanasie, douleur 3%, souffrance morale 80%. Donc, il y a bien un problème, je dirais, existentiel face à la souffrance. Ce qui est évoqué dans 80% des cas, peur de perdre ses capacités intellectuelles, peur de donner une image insupportable, d'être une charge pour sa famille, perte de sens de la vie. Cette image est une reproduction du tableau du retable d'Isenheim. On voit une image du Christ en croix, hein, du Christ souffrant. Et c'est très impressionnant parce que c'est une représentation non plus idéalisée de la mort du Christ, mais une représentation réaliste. Et je me dis que cette représentation réaliste de celui qui souffre est assez insupportable aujourd'hui. Je ne mettrai pas cette image en fond d'écran de mon ordinateur. Et je me pose la question, est-ce qu'il n'est pas aujourd'hui dans la mentalité contemporaine interdit de souffrir? On veut supprimer les souffrants parce qu'on refuse la souffrance. Alors, dans la question des mentalités, bien sûr, la question des mentalités religieuses est importante. On aura tendance à opposer la religion catholique qui valoriserait la souffrance avec le protestantisme, mais j'aimerais souligner que les choses sont un peu plus compliquées. Il y a des textes extrêmement intéressant du pape Pie XII qui, dès 1957, donne son aval moral à l'utilisation des analgésiques. Donc, il dit qu'il n'y a pas une obligation de souffrir, de se conformer à une perfection, à un héroïsme chrétien. Et il serait erroné de prétendre que la douleur est une condition indispensable de cet héroïsme. Le soulagement de la douleur n'est pas un acte mauvais en lui-même, et le médecin, en utilisant cette technique à cette fin, participe de l'œuvre divine. Donc, vous voyez, là, on est très loin de l'idée d'une souffrance rédemptrice. Et il y a un autre texte très intéressant. L'état de faiblesse et d'épuisement physique entrave l'élan de l'âme et mine les forces morales au lieu de les soutenir. Par contre, la suppression de la douleur procure une détente organique et psychique, facilite la prière et rend possible un don de soi plus généreux. Donc, au contraire, le soulagement de la douleur restitue l'être humain dans sa spiritualité. Des textes très novateurs. Alors, je ferai une parenthèse sur la question de la mort du Christ en croix. Vous savez que on tend une coupe au Christ, et on s'est demandé si cette coupe contenait et que le Christ refuse. On s'est demandé si cette coupe contenait un narcotique. Mais d'après certains commentateurs, eh bien, ce serait plutôt encore une ultime humiliation. C'était une coupe souillée que le Christ a refusée. Alors, cependant, à côté de ces textes très sages et très réalistes, au fond, la loi Leonetti, il y a beaucoup de formulations de la loi Leonetti qui doivent à Pie XII, notamment sur la question du consentement aussi, sur la question du double effet, le fait que on peut donner des analgésiques même si cela risque de raccourcir la vie. Vous voyez, déjà en 57, c'était très novateur. Cependant, dans la théologie catholique officielle, la souffrance a toujours le sens aussi de souffrance rédemptrice. Jean-Paul II a été jusqu'à parler de l'évangile de la souffrance. Bon, j'aurais du mal à souscrire à cette formulation. Et dans le très officiel catéchisme de l'Église catholique, sur le sacrement des malades, l'onction des malades, eh bien, il est écrit que par la grâce du sacrement des malades, la souffrance, séquelle du péché originel, reçoit un sens nouveau. Elle devient participation à l'œuvre salvifique de Jésus. Donc, c'est toujours la souffrance rédemptrice, quoi qu'on en dise, est toujours une doctrine officielle de l'Église catholique. Voilà, c'est un petit peu, il y a à la fois cela et les paroles de Pie XII. Alors, dans les spiritualités contemporaines, le bouddhisme considère la souffrance comme une illusion du moi. Et j'avais été très frappé par la remarque d'un conférencier qui parlait du grand succès du bouddhisme auprès des soignants. Et il expliquait cela parce que justement le bouddhisme procure des techniques qui permettent de prendre de la distance par rapport à la souffrance. Donc il apporte une certaine réponse spirituelle avec des techniques spirituelles qui permettent de se distancier par rapport à la souffrance. Et là, la question se pose, comment le protestantisme, et en particulier le protestantisme évangélique, se situe-t-il par rapport à cette question de la souffrance? Est-ce que nous ne sommes pas, nous aussi, dans un rejet contemporain de la souffrance? Quelle est la place de la souffrance dans notre théologie? Est-ce que notre théologie ne serait pas une théologie du bien-être? Alors, je ne parle même pas de la théologie de la prospérité. La théologie de la prospérité, c'est la théologie des très pauvres, qui rêvent d'un monde auquel ils n'ont pas accès. La théologie du bien-être, c'est plutôt une théologie de classe moyenne. Alors, théologie du bien-être ou théologie de la croix. Christ, lui aussi, a souffert pour vous et vous a laissé un exemple afin que vous suiviez ses traces. Voilà, il faut aussi recevoir cette parole. Alors, Pierre dit, bien sûr, il s'agit de souffrir à l'exemple du Christ en faisant le bien, en faisant le bien. Dieu murmure dans nos moments de joie, mais tonne dans nos souffrances. La souffrance est son mégaphone pour réveiller un monde engourdi. Alors, c'est vrai qu'on pourrait faire une distinction entre la souffrance et la douleur. La distinction ne serait pas étanche, hein. Je laisserai au médecin le soin de se pencher là-dessus. Je pense qu'on doit lutter contre la douleur, mais qu'on ne peut pas éliminer la souffrance. Alors, j'aimerais donner une définition de l'euthanasie, parce qu'il y a une grande confusion là-dessus. Il s'agit, alors je reprends la définition de l'Observatoire national de la fin de vie. Il s'agit d'un tiers qui met intentionnellement fin à la vie d'une personne à sa demande afin de faire cesser une situation qu'elle juge insupportable. Donc, il s'agit d'un acte de donner la mort intentionnellement, sur demande, pour soulager une souffrance. L'euthanasie n'est pas la limitation ou l'arrêt des thérapeutiques actives. L'euthanasie n'est pas l'administration de traitements pour soulager la douleur, qui peuvent accélérer la mort, hein, c'est par exemple l'usage de la morphine, et l'euthanasie n'est pas le suicide assisté. Le suicide assisté implique que la personne pose elle-même l'acte de se tuer. Dans l'euthanasie, un des problèmes, c'est bien sûr de recourir à un tiers. En Suisse, l'euthanasie est illégale, mais le suicide assisté est légal, mais c'est la personne elle-même qui doit poser ce geste. Alors, passons maintenant à la question de la législation. Donc, l'euthanasie a été légalisée aux Pays-Bas en 2001 et en Belgique en 2002. Dans ces deux pays, la législation est assez semblable. Dans les deux cas, il faut que le geste euthanasique soit effectué par un médecin sous certaines conditions, sous condition que l'état du patient présente une souffrance que le patient exprime une souffrance intolérable et une absence de perspective d'amélioration. Il y a une procédure qui doit être respectée, information du patient, consultation d'un confrère. Alors, en Belgique, la demande d'euthanasie doit être écrite, mais pas aux Pays-Bas. Et une demande anticipée d'euthanasie est valable. Le contrôle se fait a posteriori sur rapport du médecin. Alors, il y a eu récemment un rapport en Belgique faisant le bilan 10 ans après. Et la commission de contrôle fédéral rapporte qu'elle n'a pas la possibilité d'évaluer la proportion du nombre d'euthanasies déclarées par rapport au nombre d'euthanasies réellement pratiquées. Donc, on soupçonne que le nombre d'euthanasies clandestines, qu'il y ait un certain nombre d'euthanasies clandestines que la Commission a du mal à évaluer. C'est aussi la situation aux Pays-Bas, hein, où on évalue à 60%, j'ai même lu des chiffres plus importants, d'euthanasies clandestines non déclarées aux Pays-Bas. Alors, selon le professeur Étienne Montero, la commission ne fait qu'enregistrer, hein, cette commission de contrôle fédéral en Belgique, elle reste tributaire de la déclaration des médecins et interprète la loi de manière très souple, notamment pour évaluer la notion de souffrance psychique. Aux Pays-Bas, comme en Belgique, des malades mentaux peuvent demander l'euthanasie. Oui, donc ça pose, vous l'imaginez, d'énormes problèmes. Alors, passons à la législation française. Et tout d'abord, avant la législation, le code de déontologie. Article 8, le médecin doit sans négliger son devoir d'assistance morale, limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l'efficacité des soins. Il doit tenir compte des avantages et des inconvénients, des conséquences des différentes investigations et thérapeutiques possibles. Article 38. Le médecin doit accompagner le mourant jusqu'à ses derniers moments, assurer par des soins et mesures appropriées la qualité d'une vie qui prend fin, sauvegarder la dignité du malade et réconforter son entourage. Il n'a pas le droit de provoquer délibérément la mort. Article 36. Lorsque le malade en état d'exprimer sa volonté refuse les investigations ou le traitement proposé, le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences. Commentaire du code de déontologie, ces commentateurs recommandent de négocier avec le malade avant de s'incliner devant son refus, surtout s'il s'agit d'un acte ou d'un traitement jugé indispensable. Donc, il ne s'agit pas simplement, d'après le code, d'enregistrer une demande. Alors, la loi Leonetti d'avril 2005. En résumé, cette loi demande aux médecins de refuser toute obstination déraisonnable. Elle permet aux malades conscients le droit à refuser un traitement, y compris un traitement vital comme l'alimentation ou l'hydratation artificielle. Quand le malade est hors d'état de s'exprimer, il faut respecter, donc avant l'arrêt de traitement, la collégialité médicale, consulter les confrères. Il faut consulter les directives anticipées du patient. Pour être valables, ces directives doivent avoir moins de 3 ans. Alors, on voit bien l'intérêt, j'ai entendu le docteur Gomas expliquer cela, c'est que dans une maladie, il y a des évolutions. Donc, ce qu'on va dire à un temps T, eh bien, par rapport à la maladie, par rapport à ce qu'on souhaite, ne va pas être la même chose de ce qu'on va pouvoir souhaiter quand la maladie évolue. Donc, d'où cette précaution que cette directive, pour être valable, doit dater de moins de 3 ans. La personne peut désigner une personne de confiance qui sera son intermédiaire, l'intermédiaire de sa volonté auprès des médecins. Alors le docteur Gomas évoquait un peu avec humour en disant les problèmes que cela posait. Il disait « Imaginez qu'un homme nomme sa maîtresse comme personne de confiance ». Eh bien, les directives de cette personne priment sur la famille. Donc, oui, c'est pas simple. Alors, s'il n'y a pas de directive anticipée ou de personne de confiance, bien sûr, c'est la famille qui est consultée. Mais c'est une consultation. C'est le médecin traitant qui prend la décision finale, qui doit être inscrite au dossier médical. Ça, c'est très important. Donc, il y a une transparence par l'inscription au dossier médical. Alors, la loi Leonetti renforce les soins palliatifs. Alors, voilà, les directives anticipées, j'en ai un peu parlé. Elle pose question, cette directive anticipée. Quelle valeur accorder à une demande d'euthanasie qui serait transmise soit à travers des directives anticipées, soit à travers la personne de confiance? Ça pose problème. Alors, il y a une étude très intéressante de 2011 qui a été menée auprès de 200 personnes de plus de 75 ans sur cette question des directives anticipées. Et je trouve que les résultats sont très intéressants. Bon, c'est un panel qui n'est pas énorme, mais voilà, 200 personnes de plus de 75 ans. 90% de ces personnes ne connaissaient pas l'existence des directives anticipées. Et 83% de ces personnes disent qu'elles ne sont pas intéressées et qu'elles ne s'en saisiront pas. Alors ça, je trouve ça très intéressant. Et ça montre un peu le côté théorique des directives anticipées. Comment, voilà, s'imaginer, pour faire des directives anticipées, il faut s'imaginer souffrant, s'imaginer mourant. Voilà, ça pose une difficulté psychologique. Alors, je crois que la loi Leonetti pose un bon cadre, et notamment un cadre qui est protecteur pour les médecins sur la question de l'arrêt de traitement. Elle cadre l'arrêt de traitement et voilà, les médecins ne pourraient pas être poursuivis comme autrefois par des familles pour non-assistance à la personne en danger, par exemple. Mais il y a un certain nombre d'ambiguïtés dans la loi Leonetti. Le traitement inclut-il ou non l'arrêt de l'alimentation et ou de l'hydratation artificielle? Dans l'exposé des motifs de la loi Leonetti, l'exposé des motifs n'a pas une valeur légale, hein, mais donne un petit peu une lecture de la loi. L'hydratation et l'alimentation artificielle sont qualifiées de traitement. Alors, je pense que ça pose un problème de qualifier l'hydratation et l'alimentation artificielle de traitement. Bien sûr, c'est pour le faire rentrer dans le cadre de l'arrêt de traitement. Alors, il peut y avoir là aussi des cas où, quand la personne est vraiment en fin de vie, quand elle a beaucoup d'édème, par exemple, même l'hydratation peut être nuisible. Mais je trouve que ça pose un problème d'assimiler ce qui sont des soins. Là, je dirais que la nourriture et l'hydratation a un traitement. J'ai entendu un médecin de mes oreilles qui n'était pas d'accord avec Patrick Verspuren, l'éthicien catholique qui travaille sur ces questions, dire « bah oui, c'est bien un traitement parce qu'il faut faire une ordonnance ». Voilà, je ne trouve pas que ça soit un argument moral. Patrick Verspiren, donc, qui est directeur du département d'éthique biomédicale du Centre Sèvres, trouve que la loi Leonetti manque des règles de bonne pratique clinique, ce qui risque de conduire à des dérives. Il aurait fallu préciser que l'on pouvait employer ces médications, donc les analgésiques, aux seules doses nécessaires en cas de souffrance intense, résistante à tout autre traitement. Voilà. Donc, des règles de bonne pratique auraient dû accompagner cette loi Leonetti, d'après Patrick Verspiren. Alors, il y a eu un bilan de la loi Leonetti en 2008, et la Fédération protestante a consulté des soignants protestants, aussi des aumôniers, a fait un bilan et un rapport très intéressant. Et là, en résumé, considérer que la loi Leonetti était une loi du juste milieu entre acharnement et abandon du patient, qu'elle permettait de reconnaître une possible inutilité médicale, je suis en désaccord avec le texte de la Fédération protestante, que la nutrition artificielle est bien un traitement. Pour moi, ce n'est pas un traitement, c'est un soin. Mais je crois que c'est, là, sur les mots, hein, c'est vraiment souvent quand on veut modifier la distinction entre le bien et le mal, on va changer un mot. Et je crois qu'il faut être très attentif au changement sémantique. Mais, et là ça rejoint les remarques de Patrick Vache-Pirenne, ne pas préciser les conditions de son arrêt est une porte ouverte à la dérive euthanasique. Le rapport de la Fédération protestante note que la disposition de la personne de confiance n'est pas appliquée. Conclusion, cette loi, malgré quelques points délicats, est une avancée certaine dans l'accompagnement, le soin et le soin pour les personnes en fin de vie. Malheureusement, on ne peut que constater chaque jour combien elle est peu connue ou mal interprétée dans le milieu médico-social. Nous espérons une large diffusion de son contenu, tant elle est nécessaire. Alors, il y a eu un texte plus récent de la Fédération protestante à l'occasion des élections présidentielles. Et c'est très intéressant. Il y a un chapitre dans ce texte sur la fin de vie que je trouve très intéressant. Donc, elle dit tout le bien qu'elle pense de la loi Leonetti. Et encore une fois, le regret de l'ignorance de cette loi et de l'ignorance même parmi les soignants. Et elle dit en conclusion, nous encourageons donc la mise en œuvre de la loi Leonetti, nous encourageons le développement et le soutien d'un bénévolat formé à l'accompagnement des mourants, nous disons notre inquiétude devant une logique comptable des dépenses de santé, qui pourrait pousser à une euthanasie pour raison économique. Nous mettons en garde contre l'évacuation de la responsabilité de celui qui choisit de donner la mort. Aucune loi ni instance morale ne doit supprimer la responsabilité pénale et éthique des médecins et de l'entourage. Je suis particulièrement content de ces formulations. D'ailleurs, c'est moi qui les ai écrites. J'avais, à la demande du président de la Fédération protestante de l'époque, 2008, il m'avait demandé de réviser donc un très bon texte sur la question de la fin de vie qui avait été rédigé par le philosophe Olivier Abel. Et donc, voilà, j'avais contribué à la mise à jour. Alors, quelques repères chrétiens. Dans quel cadre est-ce que je pense en tant que chrétien ces questions? Je les mentionnerai juste et voilà. Et j'y reviendrai cet après-midi. Pour moi, ce qui cadre ma pensée, c'est un certain nombre de points. Dieu donne la vie. Tout être humain est en image de Dieu, donc a une dignité. Tout être humain a une dignité qui lui est conférée par Dieu. Dieu est maître de la vie et de la mort. Dieu interdit le meurtre. Dieu commande d'aimer. Dieu donne l'espérance de la vie éternelle. Je reviendrai sur ces points cet après-midi. Alors, la question qui se pose, qui peut faire débat parmi les chrétiens, même qui reconnaissent ce cadre, donc ce cadre, pour moi, exclut un droit à mourir. Mais reste la question de l'exception d'euthanasie au nom du respect de la dignité et de la compassion envers la personne. Alors, je voudrais me prononcer sur cette question. Vous vous rappelez qu'en janvier 2000, le Comité consultatif national d'éthique s'était prononcé, alors ce n'est qu'un avis consultatif, hein, en faveur de l'introduction dans la loi d'une exception d'euthanasie. Et la commission d'éthique que je présidais à l'époque avait réagi à ce texte en reconnaissant que ce texte était une proposition circonscrite. Il ne s'agissait pas de légaliser l'euthanasie. mais de permettre qu'il n'y ait pas de poursuite dans certains cas. Mais cette exception, l'introduction d'une exception dans la loi, il nous semblait que ça va bouleverser la fonction de la loi, la fonction de repère de la loi, qu'il y avait un danger à multiplier les exceptions dans la loi, et que l'exemple hollandais montrait que, voilà, il y avait un nombre important, hein, une enquête de 95, ça date un petit peu, mais avait montré que sur 4000 euthanasies, de 900 à 1000 l'avaient été sans l'accord du patient. Hein, c'est la question de la brèche, toujours. Hein, on ouvre une petite, on dit voilà, ce n'est qu'une petite porte et ça, voilà, c'est une fissure en fait qui, c'est un petit trou qui devient une fissure et le mur finit par s'effondrer. Alors, ce qui est très intéressant, et je pense que ça c'est peu signalé, c'est que Jean-François Collange, qui est un théologien luthérien, qui était professeur d'éthique à la faculté de Strasbourg, eh bien, était un des partisans de cette exception d'euthanasie, et que 7 ans plus tard, il est revenu dessus. Et il a considéré que c'était une impasse. Que cela accentuerait le caractère individualiste de nos sociétés, et qu'on ne peut exiger d'un tiers, surtout d'un médecin, qu'il mette fin à une vie. Voilà. Donc, je trouve intéressant, ce théologien a eu l'honnêteté de revenir sur cet accord avec l'exception d'euthanasie. Alors, je crois qu'il y a des enjeux sociaux énormes sur cette question de la légalisation de l'euthanasie dans un contexte de vieillissement de la population. Cela mettrait en cause la solidarité intergénérationnelle. Cela serait une incitation sociale au suicide. Et je crois qu'il y a deux arguments qui me semblent très forts et audibles aujourd'hui. C'est l'argument de la conscience et l'argument de la justice. L'argument de la conscience, c'est que l'acte de tuer, si je l'envisage en moi-même, provoque en moi un effroi. Être pour l'euthanasie, c'est une chose, mais dire, voilà, je vais te donner une... Tu vas faire une injection mortelle à cette personne, eh bien voilà, ça, dans ma conscience, cela provoque un effroi moral. Et l'autre argument, c'est l'argument de la justice. Le rôle des institutions, c'est de protéger les plus faibles. Je vous remercie.